relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
Nous commençons avec un grand classique de la littérature anglaise, les Odes hurlements. Sarah, pourquoi ce livre? N'est-ce pas un pavé qui risque d'assommer nos auditeurs fraîchement réveillés?
Mais c'est un grand ouvrage, Eva. Il est d'ailleurs fortement recommandé de ne pas le laisser traîner à hauteur des petites gens. Il risquerait en effet de tomber sur leur tête et de s'abîmer en leur brisant l'encéphale. Mais je l'ai choisi par rapport au titre, voyons.
Les hauts de Hurlevent, les hauts... Ah mais oui, les hauts, les vêtements de Hurlevent, ces t-shirts, ces chemises, c'est ça? C'est une bonne idée d'en parler quand nos auditeurs n'ont pas encore choisi leurs vêtements.
Mais oui, puisqu'ils sont sous la couette à nous écouter chanter comme des marteaux-piqueurs bien matinaux. Eva, je trouve ce titre d'une modernité très moderne. Les hauts d'un type non sordide, c'est sordide. Soyons logiques. Si je lisais un pavé intitulé « Les bretelles de Madame » ou « La ceinture de Jean-Mi », je ne craindrais pas pour mon intégrité morale et fictionnelle. Mais les hauts, belles anti-périphrases pour les t-shirts crades et troués qui traînent au fond d'une armoire située au fin fond de la campagne anglaise, suivie de hurlevent, cela me procure un effet frissonnastique aigu.
Oui, l'allitération assonantisée en H est également remarquable. Oh, de hurlevent. Tu parlais de modernité, Sarah. Outre l'interlopie de ce charmant monsieur, disons que d'ordinaire, les tutos « Comment s'habiller le matin » se consacrent aux armoiries féminines.
Eva, je pense qu'Emily Brontë nous révèle là un message émancipateur à l'égard des hommes qui sont marginalisés par les tutos vestimentaires. Mais toi qui as sans doute lu cet ouvrage, dis-moi, que nous révèle la charmante Amy, Amy pour les intimes, probablement nécrophile vu l'état actuel de son enveloppe charnelle, sur les hauts de Monsieur Hurlevent?
Mais rien du tout, Sarah. Ce qui est très étonnant, c'est que dans ce livre, ni les hauts ni leurs propres hurlevents n'apparaissent. Je trouve cela très fort remarquable.
Je dirais même plus, c'est très fortement remarquable. Eh bien, chers auditeurs, si vous vous sentez d'humeur surprenable, n'hésitez pas à poser sur votre table les hauts de hurlevent d'Emily Brontë. Attention, ce conseil s'applique uniquement aux grandes personnes qui n'abîmeraient pas l'ouvrage en le faisant tomber sur leur tête.
Et avis aux petites gens, procurez-vous plutôt « Guerre et paix » de Tolstoï. Il ne doit être « Guerre et paix ».
Ah, très bien. Et maintenant, écoutons la critique d'Antoine. Mais qu'entends-je? Il a un problème de télétransportation. Établissons un fictif contact télépathique et prêtons notre bouche aux aventures d'Antoine, coincé à Paris. Oui, je ne suis pas là, mais tel Hugo à Guernsey, je parle par ma chronique et j'espère qu'elle réussira son pari à Lyon. L'autre jour, comme je cherchais un sujet de chronique, j'appris que la poésie moderne est celle qui parle d'elle-même. Paul Fort de ce principe est ravi de n'avoir plus à réfléchir pour ma chronique, je me mis en quête d'un poète. Je consultais donc la carte des métros et quel bonheur! J'y trouvais d'abord Alexandre Dumas, Anatole France, Émile Zola, mais point de poète. Bah, il me restait Aragon, mais je ne parvenais pas à savoir s'il était à Front Populaire ou à Stalingrad. Pour plus de sûreté, j'optais pour la station Victor Hugo. Je descendis les 12 marches de la station Opéra. Hélas, on se battait, on me frappait. Dans mon parcours misérable, je ne me sentais pas très victorieux. En quête d'équilibre et toujours de mon poète, je m'attachais au pilier du métro. Je reconnus Circé dans la femme qui me donna un coup de coude. Comment savais-je que c'était Circé? C'est qu'elle traite à l'homme qui lui toucha les fesses de cochon. Quel voyage mitou logique. Je ne pus malheureusement lire tous les poèmes du métro, mais j'en recopie un pour nos chers auditeurs. J'aime me balader sur les quais, car si quelqu'un se moque de moi, je peux lui rabattre son caquet en me jetant sur les voies. Cependant, j'arrivais à la station Victor Hugo. Fermée. Je demandai l'emplacement du poète au contrôleur, et après m'avoir gentiment verbalisé parce que je me voyais sans papier, il m'indiqua que Victor Hugo était aux Champs-Élysées avec Homère, Dante, Claude-François, bref, tous les grands. Soit, je m'y rendis, demandai à quatre jeunes hommes patibulaires où était Autor. On me frappa, me prit mon portable et me dit « Victor Hugo, il est dans ton ce qui voulait sans doute dire le Panthéon. Après cela, c'était définitif, je jetai le ponge.
Sur ces bonnes paroles, chers auditeurs, nous vous quittons et vous invitons à écouter le décortiquage de François René. Pas Chateaubriand, nul n'a envie de décortiquer un cadavre aussitôt, mais celui de notre cher chroniqueur. La cultivation de votre encéphale continue même après cette heure.